un long chemin, celui du carême, pour nous préparer à cette fête de Pâques qui a duré le jour de Pâques, qui dure 8 jours, puisque nous sommes dans l'octave et que tous les jours nous avons fêté avec solennité cette fête. Mais il est peut-être temps de faire le bilan. Qu'en est-il de notre conversion, du chemin de conversion que nous avons fait pendant ce carême? Au mieux, nous avons pu changer, ou tout au moins améliorer, tel ou tel comportement. Mais est-ce vraiment là la conversion? Car, selon son étymologie, il ne s'agit pas de changer de comportement, mais de changer de mentalité, du nous meta noia, par-delà notre propre manière de voir, notre intelligence. Ou selon l'hébreu, c'est la teshuva, revenir à Dieu, c'est-à-dire mettre nos pas dans ses pas, vivre de sa vie. On appelle ce dimanche le dimanche de la miséricorde. Mais attention, la miséricorde, ce n'est pas une idée de Dieu, une représentation de Dieu, un attribut de Dieu qu'il s'agirait de méditer en le faisant dépasser sur les autres attributs. Je ne vais pas vous faire un grand discours sur la miséricorde, car la miséricorde, encore une fois, n'est pas une idée de Dieu. Mais la miséricorde, c'est une action. C'est l'action propre de Dieu, le Père, qu'il nous manifeste en Jésus. Et on le voit dans sa miséricorde, il ne va pas s'attacher à tous ces gens qui font des efforts pour être des gens bien que sont les scribes et les pharisiens. Il va s'appeler aux pécheurs. Et dans son ministère, on voit que la première chose, quand il voit quelqu'un en détresse, c'est « tes péchés sont pardonnés ». Et puis, on voit bien cette action qu'on a vue se déployer dans la Semaine Sainte, Jésus qui prend la place du pécheur, lui l'innocent, et qui vient transformer, qui vient racheter les pécheurs en portant nos blessures. La conversion, ce sera donc de rentrer dans cette action de Dieu, de mettre nos pas dans ses pas, de vivre suivant son souffle qui fait renaître tout homme qui vient à sa rencontre. On a vu toute cette semaine, avec les textes évangéliques qui relatent la résurrection de Jésus, que cette nouvelle immédiatement ne transforme pas les disciples. Certes, en le voyant, ils finissent par être dans la joie, mais ils sont plutôt stupéfaits, étonnants. Tous, ils ne le reconnaissent pas d'abord, car l'aspect physique du corps glorieux est différent. Mais ils savent que c'est lui. Et petit à petit, ils en ont la preuve à ces signes qui ne trompent pas. La voix pour Marie, la fraction du pain pour les disciples d'Emmaüs, les plaies des mains, les pieds et du côté pour les apôtres. Mais ils ne sont pas encore convertis. Ils sont encore avec leur vieille mentalité. Et même s'ils ont déjà un peu reçu, accueilli Jésus. Car, voyez, au matin de l'Ascension, ils seront encore avec ces rêves de restauration politique. Est-ce que c'est maintenant que tu vas venir restaurer le pouvoir en Israël? Chasser l'occupant, détrôner les dirigeants corrompus. Et il faudra la Pentecôte. Recevoir à l'intime la parole, l'Esprit Saint, le feu de Dieu écrit sur leur cœur. Le discours de Pierre, alors, on verra, change du tout au tout, il devient clair. Le regard de Jésus, parfaite image de celui de Dieu, de ce regard de Jésus qui est celui du Père très aimant, plein de tendresse et d'espérance pour ses enfants faibles et pécheurs. L'action de Jésus qui guérit et refait fluer la vie de ceux que la vie a désertés en tout ou en partie. Résurrection, guérison, continue par nous, les membres de son corps, l'Église. Comment Jésus s'y prend-il dans cette manifestation qu'il fait aux disciples? Vous avez entendu, d'abord, il se tient au milieu d'eux, comme ressuscité. Ce n'est pas un fantôme qui passe à travers les portes. Il se tient au milieu d'eux et il est dans sa gloire. Cela ne dépend pas de leur prière. Il est là, quand et où il veut. Il est au milieu de leur peur, de leur couardise dans laquelle ils sont enfermés, dans les prisons intérieures dans lesquelles ils sont enfermés. Mais il est là. C'est d'ailleurs ce que dira Jésus, sa dernière parole, « Et moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. » Il est là, à chaque instant de nos vies. Il leur apporte ensuite la paix. Mais attention, pas la paix du monde. La paix, celle qui est le fruit de la croix et de la résurrection. Nous n'apporterons jamais la vraie paix à nos proches, si nous n'embrassons pas la croix, si nous ne la traversons pas librement, c'est-à-dire dans ce geste d'offrande eucharistique, offrande de Jésus à la croix. Cette croix, la nôtre, celle des pécheurs que nous sommes appelés à porter comme lui. Jésus a pris la place du pécheur pour que le pécheur devienne libre. Mais il fallait qu'il prenne cette place. Le pécheur, ce n'est pas l'autre qui doit revenir, celui qui ne vit pas bien, celui qui a une vie honteuse. Non. Le pécheur, c'est moi, c'est lui. Et lui, c'est la chair de ma chair. Je dois m'asseoir à sa table. Je dois porter le fardeau avec lui. Il ne peut pas mettre un étranger. Je ne peux pas mettre une barrière si je veux que la vie de miséricorde, l'action de miséricorde soit présente et efficace dans ma vie. Le don de la paix, donc, s'enracine dans la croix. Et on le voit bien, il fait reconnaître ses plaies des mains, des pieds, du côté. À partir de là, il va donner trois consignes aux apôtres que vous avez entendues. La première, c'est vous êtes envoyés de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Nous sommes envoyés par Jésus, comme Jésus est envoyé par le Père. Nous sommes appelés à le représenter parfaitement, à l'incarner, à laisser passer en nous le même flux de vie que nous recevons dans la prière, dans l'intime de notre cœur, et que cela puisse couler à travers nous. C'est l'incarnation qui se perpétue dans le présent. Voilà le mystère chrétien. Ils ne verront Jésus que si tu aimes et tu agis comme lui, rencontrant, accueillant, faisant jaillir la vie des cœurs morts des pécheurs, et non pas être là pour le asséner une vérité à laquelle il faut qu'il se conforme pour être sauvé, mais c'est les rejoindre. Laissez encore couler ce flux de vie miséricordieux du Seigneur. Être au service. Le lavement des pieds, le jeudi saint, nous en était la parfaite image. Donc envoyé, comme Jésus l'est par le Père, le même envoi, la même place que Jésus. Deuxièmement, Jésus souffle sur eux, et c'est chez Saint-Jean ici ce don de l'Esprit Saint. Il regarde tous les disciples, et cela n'est pas lié à ce don de l'Esprit Saint, à une place, à une fonction, mais on y voit très bien le parallèle avec le texte de la création dans Genèse 2. C'est une nouvelle création. Le souffle de Dieu qui coule en nous et qui anime la boue, la glaise, la poussière, mais pour donner une vie en plénitude. Et puis, la troisième consigne, c'est le pouvoir de pardonner. Et le Notre Père est clair, c'est quelque chose que chaque croyant doit faire, doit manifester ce pardon de Dieu. Nous ne prions pas pour changer Dieu, pour qu'il devienne miséricordieux des fois où il ne le soit pas vraiment. Jésus est la parfaite image. Quand nous voyons Jésus, nous voyons ce cœur, cet intime, cette totalité de Dieu. Il n'y a pas besoin de demander qu'il devienne miséricorde, mais que nous recevions et nous soyons comme Jésus, ces acteurs, ces transmetteurs, ces images parfaites de la miséricorde de Dieu. Oui, tout croyant doit manifester cette miséricorde, qui doit voir chaque pécheur comme son fils, comme la chair de sa chair blessée, auquel il est urgent de venir en aide. Et il ne faut pas croire qu'il faut réserver le pardon des péchés simplement au ministre ordinaire du pardon. Bien sûr que c'est important, mais si ce n'est pas porté avant, si ce n'est pas relayé, si ce n'est pas transcrit d'abord dans l'attitude de tous les chrétiens, nous enlevons une occasion immense de conversion, d'accueil, de répandre la vie nouvelle. Cela dépend de chacun de nous. Alors la célébration sera vraiment cette parole ultime de Jésus qui ressuscite. Mais il faut tout ce travail en amont. Nous voyons ensuite dans notre évangile Thomas. Il n'est pas là, et le déficit de cette expérience, de cette mise en présence de Jésus, cette expérience de la paix donnée par Jésus, le conduit, lui, comme nous, au doute. Le texte insiste, il s'appelle Thomas en araméen, c'est-à-dire Didyme en grec, et puis on retraduit encore, et puis en français ça veut dire jumeau. Il est intéressant d'aller voir dans la Bible les jumeaux, les frères très proches, Caïn et Abel, Ésaü et Jacob. C'est toujours comme ces deux faces qu'il y a en nous. L'un prêt à écouter, à se mettre dans le chemin du Seigneur, même si ça nécessite quelques transformations au cours de la vie, comme on le voit pour Jacob, mais, et l'autre qui est plus justement dans ce sentiment, le pouvoir, mettre la main, comprendre l'empirique directement, etc. Voilà. Si nous avons vite fait de prendre l'expression « Oh moi, je suis comme Thomas, je crois que ce que je vois. » Il est urgent de croire. Si je ne vois comme Ésaü, comme Caïn, que la chose immédiate, je ne verrai en fait rien. Regardez les chercheurs. Les chercheurs, s'ils ne croient pas qu'il y a quelque chose à trouver, s'ils ne cherchent pas, ils ne trouveront pas. Il ne se passera rien. C'est quand on se met à chercher qu'on trouve. Et ici, il nous faut chercher, à comprendre, à imiter, à recevoir cette miséricorde, à nous mettre sous ce flux de miséricorde qui s'écoule du cœur du Seigneur, qui s'écoule de ce souffle du Seigneur qui nous donne son souffle, son esprit, que nous avons reçu dans les sacrements, que nous avons reçu à la confirmation, que nous ne cessons de recevoir. Alors, poursuivons notre chemin de conversion avec une phase nouvelle, avec une intelligence nouvelle. C'est à ça aussi que sert le temps pascal, pour nous préparer encore à la Pentecôte, pour vraiment arriver à cette pleine transformation, non pas de notre propre petite perfection ou de notre maîtrise sur nous-mêmes, mais qui est importante, mais à vivre vraiment comme fils et fille de Dieu, non pas passif, non pas endormi, non pas dans le coma, mais vivant, transmettant la vie et la vie en plénitude.